Marceline Michon.
Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Marco Odermatt est le roi à Wengen. Le Nidwaldien a remporté la descente de Coupe du Monde de ski alpin cet après-midi, une quatrième victoire en quatre ans dans cette discipline sur le Lauberhorn. Le Suisse a relégué l'Autrichien Vincent Krischmayr à 79 centièmes et l'Italien Giovanni Franzoni à 90 centièmes. Après sa quatrième place hier en Super G, Marco Odermatt a prouvé qu'il apprend de ses erreurs pour atteindre la perfection même sur une piste aussi difficile que le Lauberhorn.
C'était vraiment une manche parfaite. J'avais un bon plan et j'ai vraiment pris tous les risques comme hier, sauf que hier j'ai fait une faute dans le Kernenes. Malgré ça, j'y suis allé à fond et c'est passé parfaitement. Et puis si on ne prend pas ces risques, on ne peut pas gagner une course. Je savais que je pouvais skier de cette manière. Ça avait fonctionné comme ça l'année passée, puis quand on le sait, ben, ça aide beaucoup. Après, c'est sûr que c'est quand même un peu fou de skier à plus de 100 km/h contre le vent. Le timing, il était difficile à trouver hier, mais je crois que je l'ai bien trouvé aujourd'hui.
La prise de risque maximale, c'est ce qu'a tenté Fragno von Almeun. Il a finalement terminé quatrième à 0,03 du podium. Le Bernois a été très agressif, comme à son habitude, mais il a frisé la correctionnelle à la sortie du Kernenes. Fragno von Almeun.
J'ai pris le risque de le passer à fond. Le niveau, il est très haut. On est obligé de prendre des risques si on veut être sur le podium. Malheureusement, je ne suis pas arrivée à 100%. J'étais un petit peu trop directe. Et du coup, je sors avec du retard. Et ça n'a pas suffi pour le podium. Mais j'ai essayé. C'est un passage qui est très difficile. Hier, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, pas. C'est la loi du sport.
Juste derrière le Bernois, on retrouve Alexis Monet. Le Fribourgeois a su se remobiliser après la déception de sa 19e place hier en Super G.
Bon, je suis content. Après la journée d'hier, c'était pas facile l'après-midi. Donc, content de la réaction et puis surtout content du ski que j'ai fait en bas. Parce que je crois que je perds déjà quasiment la même chose après le Brückli. Et je suis content de finir quasiment égalité avec Marco sur la partie basse. C'est cool. Ça montre que le ski, il est là. Et puis, surtout content de finir sur une bonne note ce week-end et puis pouvoir attaquer Kitzbühel de la meilleure des manières.
Un dossier réalisé par Lydiane Guena, envoyé spécial à Wengen. Les autres Suisses, Marco Koller et Stefan Rogentin, ont signé un top 15 et Justin Murisier a terminé 17e. Les courses du Lauberhorn se poursuivent demain avec un slalom dès 10h. Les skieuses suisses ont une nouvelle fois été en retrait en vitesse. Corinne Souter a été la meilleure d'entre elles ce matin. Lors de la descente de Tarvisio avec un 15e rang, l'Italienne Nicole Delago a été la plus rapide devant son public pour remporter sa première victoire en Coupe du Monde. 20 centièmes devant l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann et 26 centièmes devant l'Américaine Lindsey Vonn. De son côté, Petra Vlova peut à nouveau s'entraîner pleinement, 2 ans après une grave blessure au genou droit. La Slovaque, championne en titre de slalom, envisage de revenir à temps pour les JO de Milan-Cortina qui débutent dans 2 semaines. Ne manquez pas le tour complet de l'actualité sportive, ce sera dans quelques minutes avec Émilie Mumenthaler. On évoquera notamment les enjeux de l'Open d'Australie, premier grand chelem de la saison qui commence demain. Dans le Jura, c'est une institution particulière du paysage muséal régional qui vient de perdre sa fondatrice. Les mots d'Élodie Pope, directrice de l'Office jurassien de la culture, après le décès d'Alice Chapuis-Fendrich. Cette dernière, âgée de 89 ans, avait rassemblé des dizaines de milliers d'objets de la vie quotidienne avec son mari Marc Chapuis et créé le musée Chapuis-Fendrich, devenu musée de la vie jurassienne à Develier. La directrice de l'Office jurassien de la culture, Élodie Pope, explique la place du musée dans la région.
Ce musée de la vie jurassienne, c'est une institution tout à fait particulière dans le paysage muséal jurassien, en raison de cette collection qui est vraiment un peu unique en son genre. Tous les musées exposent des objets d'art, des œuvres ou des objets qui permettent de raconter l'histoire, mais la particularité du musée jurassien, c'est vraiment cette collection qui a été rassemblée par le couple Chapuis-Fendrich, des objets du quotidien qu'on a l'impression d'avoir tous vus chez nous, chez nos grands-parents, chez nos parents, et puis qui trouvent là un lieu d'exposition vraiment incroyable et puis qui permet de raconter, alors pas forcément toujours la grande histoire, encore que, mais surtout cette histoire de tout le monde, de nos familles à nous, du Jura et puis des régions qui nous entourent. C'est une culture populaire, mais c'est aussi un patrimoine. Donc c'est ce patrimoine qui nous est propre, qui est propre à nos familles, à nos régions. C'est des savoir-faire aussi régionaux, des outils qu'on utilise dans le cadre de certaines professions, dans le cadre du travail de la terre également, et qui trouvent là un lieu lieu où leur mémoire perdure, parce qu'il faut bien le dire, souvent ces objets un peu anciens, quand on pense aux objets qu'on utilisait au début du XXe siècle, même leur utilisation parfois aujourd'hui, elle nous est un petit peu curieuse. On regarde l'objet, on se demande à quoi il sert. Et puis un lieu comme le musée de la vie jurassienne, c'est un endroit où, notamment grâce aux guides qui font un superbe travail dans cette institution, ben, les musées font vivre encore ces objets et puis on peut redécouvrir des savoir-faire qu'on perd peut-être un petit peu aujourd'hui.
Autre actualité culturelle dans ce journal, la nouvelle exposition proposée au château de Miécourt. Le photographe Gilles Elbar, qui expose ses photos du Groenland jusqu'au 15 mars, invite à réfléchir à notre rapport à la nature et à notre avenir. L'exposition Iceberg propose une immersion dans des paysages majestueux mais fragiles et veut alerter sur la fonte des glaciers et l'urgence climatique. Gilles Elbar raconte ce qu'il a ressenti lors de ses voyages au Groenland en 2023 et 2024.
J'ai ressenti quelque chose qui m'a retourné un peu l'estomac, dans le sens où je me suis dit, ben tu vois, t'es en train de voir ce que tout le monde parle sans rien faire. J'étais là, j'avais envie d'hurler un petit peu, ben je me suis dit, au lieu d'hurler, hein, prends ton appareil et puis commence à mitrailler pour pouvoir montrer ce qui se passe aux personnes qui réalisent pas. Ces émotions-là, ça vous épate, ça vous donne envie de respecter la nature plus que d'habitude, parce que vous la voyez à l'état pur en fait. On ne peut pas rester insensible à ça.
L'exposition Iceberg, proposée par la Fondation des Amis du Château de Miécourt, est à voir jusqu'au 15 mars, du mercredi au dimanche. Les premiers certificats d'auxiliaires de santé ont été distribués à Belley. Ils ont été remis jeudi soir à 11 requérants d'asile. Ce projet pilote, une première en Suisse qui s'est déroulée aux frontières du Jura, vise à favoriser l'intégration des immigrés tout en contribuant à répondre à la pénurie de personnel soignant. Reportage.
L'heure était à la célébration jeudi soir pour la première volée. Le conseiller d'État Pierre-Alain Schneck, initiateur du centre de formation et directeur de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, s'est exprimé non sans fierté.
C'est une fierté, mais c'est aussi beaucoup d'émotion. De voir que des gens qui en 20 mois ont été capables d'apprendre la langue et de mener à bien ce certificat d'auxiliaire de santé, c'est quelque chose qui marque.
Pourquoi est-ce que ce programme il est important ?
Premièrement, c'est donner des perspectives aux gens qui arrivent chez nous par le biais de l'asile. En leur donnant des perspectives, on permet également à notre système de santé d'avoir plus de personnel formé pour accomplir les tâches que ces institutions ont à accomplir.
La formation, qui s'étend sur 20 mois, est pilotée par la Croix-Rouge. Elle comprend des cours de langue et des stages pratiques. Les détails du directeur de la Croix-Rouge suisse canton de Berne, Joël Meyer.
C'est un grand succès en fait. Il y avait 11 diplômes, c'est déjà un premier pas. La suite, c'est de continuer ce cours. Je veux dire, c'était la première volée. On a d'autres qui vont venir, alors on continue ce programme si le canton continue aussi. Hein. C'est leur responsabilité, mais on est prêt pour continuer, absolument.
La cérémonie a été rythmée par des intermèdes musicaux. Hilaire Pancuit, fraîchement diplômé de cette première volée, a interprété Ave Maria. Et puis, il est finalement temps de remettre les 11 certificats. Diplôme à la main, cette fois on retrouve Hilaire Pancuit. Pour lui, ce diplôme n'est pas une fin en soi, mais un autre chemin qui s'ouvre.
C'est l'aboutissement, n'est-ce pas, d'un long processus, d'un long travail. Je l'ai pris avec beaucoup d'amour, parce que déjà en Afrique, vous savez, quand on parle d'auxiliaire de santé, on passe de la personne âgée. Et l'Africain, généralement, vit en connexion avec la personne âgée. Donc lorsqu'il faut prendre soin des personnes âgées, on a l'impression de prendre soin de notre maman, de notre grand-mère, et c'était plus facile comme ça. Et j'invite tout le monde, n'est-ce pas, à croire en ce projet, parce que c'est un projet d'avenir, c'est un projet qui nous permet de vivre un peu. Vous savez, lorsqu'on est requérant d'asile, des fois on est cloîtré dans la chambre, on pleure, on est stressé, et lorsqu'on a cette opportunité de suivre des formations, on se rend compte en fait qu'on fait vivre le cerveau, et que, n'est-ce pas, vivent les prochaines générations d'auxiliaires de santé.
Les diplômés peuvent dès à présent postuler dans des homes ou dans des hôpitaux. Wilangola Antoinette a reçu son diplôme ce jeudi soir, mais pour elle, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.
C'est vraiment une fierté pour moi, je suis vraiment contente.
Et la formation, vous l'avez vécue comment ?
C'est un peu difficile parce qu'ici, c'est un peu loin de là où j'habite, avec les transports, les trajets.
Les prochaines étapes aujourd'hui, c'est quoi ?
Aujourd'hui, j'ai signé le contrat pour commencer le travail. Du coup, donc, j'ai fait des choses à la fois. Je suis vraiment très contente.
Un reportage réalisé par Manon Becker. Ouvrir les dons du sang à un plus large public, mais sans compromis sur la sécurité. C'est ainsi que la directrice du service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine, Özlem Izarsi, conçoit les nouvelles modalités qui entreront en vigueur dès le 1er février en Suisse. Certains critères pour donner son sang seront assouplis à partir de cette date. Les personnes qui ont séjourné longtemps au Royaume-Uni dans les années 80 et 90 pourront désormais donner leur sang. Les patients qui ont bénéficié d'une transfusion sanguine pourront eux aussi devenir donneurs dès le mois prochain. Précision d'Özlem Izarsi, directrice du service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine.
Jusqu'à présent, une transfusion sanguine a entraîné une exclusion définitive du don de sang. Désormais, cette exclusion est remplacée par un délai d'attente de 4 mois. Quel que soit le pays où la transfusion a eu lieu. C'est cas par cas, puis on est obligé d'étudier toutes les questions, bien sûr.
Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce changement?
Parce qu'une réévaluation complète des risques a été menée par un groupe d'experts interdisciplinaires en médecine transfusionnelle, en infectiologie, en épidémiologie. Et puis, elle montre qu'aujourd'hui, le risque de transmission de la variante de la maladie à Creutzfeldt-Jakob par transfusion est très improbable. Et cette adaptation, bien sûr, a été examinée par SwissMedic et puis approuvée en juillet 2025.
Des propos recueillis par Adrien Juvet. Pour le moment, les stocks de sang sont qualifiés de bons. De nombreuses personnes se sont manifestées auprès du service de transfusion après la tragédie de Crans-Montana. Dans les Grisons, un Allemand a perdu la vie dans une avalanche hier près de Touillettes. Il faisait partie d'un groupe de 7 randonneurs à ski emportés par l'avalanche. 4 d'entre eux ont subi des blessures légères à modérées et ont été héliportés à l'hôpital. En collaboration avec le ministère public, la police enquête sur les circonstances exactes de l'accident. Berne a été le théâtre de 2 manifestations cet après-midi. Quelques 200 personnes ont manifesté contre le régime iranien. La mobilisation autorisée s'est tenue devant l'ambassade d'Iran. Et puis un rassemblement anti-WEF a aussi eu lieu dans la capitale. Le rassemblement non autorisé a attiré quelques centaines de personnes face à un important dispositif policier. Le Forum économique mondial s'ouvrira lundi à Davos. Manifestation aussi à l'étranger, à Copenhague et Nuuk, capitale du Groenland. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues pour dénoncer les ambitions territoriales du président américain Donald Trump au Groenland. Les négociateurs ukrainiens sont arrivés aux États-Unis cet après-midi. Une délégation participera de nouveau pour parler avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sur le plan de Washington qui vise à mettre fin à la guerre avec la Russie. Ces nouvelles discussions qui se tiendront à Miami interviennent après une série de frappes russes massives ces derniers mois qui ont fortement fragilisé le réseau énergétique ukrainien et provoqué des coupures de courant et de chauffage en pleine vague de froid. Il est 18h13, le ski alpin à Wengen n'est pas le seul événement sportif du week-end. On ouvre donc une page sport avec vous, Émilie Moumentaler.
Oui, avec les SR de Lémont qui ont lancé leur campagne de préparation en vue de la reprise de la Premier League en partageant l'enjeu. Les footballeurs de la capitale ont fait match nul 0 partout contre l'équipe de Promotion League de Brighton Rhein aujourd'hui à Berne en match amical. L'entraîneur des Jaunes et Noirs, Anthony Siruffo, a souligné le bon état d'esprit de sa troupe. Il a aligné les nouvelles recrues Jordan Peroni et Nolan Géraud. Il a aussi testé le jeune attaquant de Xamax, des moins de 19 ans, Glenn Mbazo, et le piston Brian Rodriguez qui joue à Romontois en deuxième ligue interrégionale. Et la rencontre de Super League prévue aujourd'hui à 18h entre Winterthur et Saint-Gall a été renvoyée à une date ultérieure à cause du gel. L'arbitre de la rencontre a jugé la pelouse de la Schützenwiese impraticable selon une annonce de la Swiss Football League. Quelques autres résultats de sport d'hiver à présent. Championne olympique et du monde en titre, Mathilde Grémaud ne s'est pas rassurée lors de la dernière étape de Coupe du monde de ski slopestyle avant les JO à Lax. La fribourgeoise a échoué au 7e rang de l'épreuve remportée par la chinoise Eileen Gu. Meilleur suisse André Ragatli a aussi terminé 7e, succès du norvégien Birkrud chez les hommes. En snowboard, Gian Casanova est monté sur le podium pour la première fois de sa carrière en individuel, aujourd'hui à Bansko. Le Saint-Gallois a pris la 3e place du géant parallèle disputé dans la station bulgare. Il s'est incliné en demi-finale face au futur vainqueur, l'Autrichien Benjamin Karl, avant de remporter la petite finale. Valérie Ogrond a signé la meilleure performance suisse lors de l'étape de sprint de Coupe du Monde à Oberhof. Le grison de 25 ans a terminé 6e dans une finale remportée par le Norvégien Lars Heggen. Cédric Folador a lui terminé 7e de l'épreuve de Coupe du Monde de Boba 2 d'Altenberg. Le pilote zougois Timo Rohner a pris la 9e place en Allemagne. La victoire est revenue à l'Allemand Johannes Lochner. Le Dakar 2026 en Arabie Saoudite s'est achevé aujourd'hui sur un sacre presque tranquille pour Nasser Al-Attiyah en auto. Le pilote qatari a mené son rallye de manière stratégique en s'installant dès les premiers jours en tête du classement général pour enlever son 6e sacre. En moto, la surprise est venue de Luciano Benavides. L'Argentin a profité d'une erreur de l'Américain Ricky Brabec pour arracher sa première victoire finale avec seulement 2 secondes d'avance. Et place au premier temps fort de la saison de tennis. L'Open d'Australie commence demain à Melbourne. Les Suisses Stan Wawrinka et Belinda Bencic seront sous les feux des projecteurs pour des raisons différentes. Guillaume Joly.
Ce sera l'heure des adieux pour Stan Wawrinka qui mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année. Le Vaudois avait remporté le premier de ses 3 titres du Grand Chelem à Melbourne il y a 12 ans. Il a l'occasion de prolonger le plaisir après avoir hérité du Serbe Laszlo Djere au premier tour. L'Italien Yannick Sinner est lui le grand favori pour soulever la coupe une 3e fois de suite. A l'inverse, son plus grand rival Carlos Alcaraz n'a jamais vraiment connu le succès dans la Rod Laver Arena. Le numéro 1 mondial espagnol reste sur 2 quarts de finale. Chez les dames, Belinda Bencic fait partie des outsiders les plus sérieuses. La Saint-Galloise vit un début de saison exceptionnel avec 5 victoires à la United Cup, dont 2 contre des joueuses du top 10. Elle entrera en lice face à la Britannique Katie Boulter. La Zurichoise Victoria Golubic en découdra avec la Française Varvara Gracheva pour des débuts abordables. Pour sa première participation dans le tableau principal, la grisonne Simona Valtert n'a, elle, pas été gâtée par le tirage au sort avec un duel face à l'Américaine Amanda Anisimova, tête de série numéro 4 du tournoi. Pour ce qui est de la victoire finale, la Belarus Arina Sabalenka semble être la meilleure sur surface dure et visera un 3e sacre à Melbourne Park.
Lundi, Simona Valtert sera la première représentante de Swiss Tennis à entrer en lice aux alentours de 2h30 du matin, heure suisse. Stan Wawrinka fera lui ses débuts vers 6h. Et ce soir, le HC Ajoie reçoit le leader Davos. Les hockeyeurs jurassiens de National League seront en quête d'une troisième victoire en 4 jours après leur succès contre Langnois-Zoug. Ce match entre le HCA et les Grisons est à vivre en direct sur RFJ dès 19h30 avec Régis Cerf aux commentaires.
Merci Émilie. On termine avec la météo et la grisaille qui dominera demain jusque vers 800 mètres d'altitude. Au-dessus, conditions bien ensoleillées, température maximale demain 5 degrés sous la grisaille, 7 degrés au-dessus. Merci pour votre écoute, passez un très bon week-end.